Guerre et paix. Première partie, chapitre 5, scène 18. Après avoir traversé le corridor, ils entrèrent dans la section des officiers qui était composée de trois pièces communiquant entre elles. Il y avait là des lits sur lesquels les malades étaient couchés ou assis. Quelques-uns d'entre eux se promenaient en robe de chambre. Le premier que remarqua Rostov fut un petit homme maigre avec un bras de moins, un bonnet de coton, une pipe à la bouche, arpentant de long en large la première pièce. Il essaya de se rappeler où il l'avait déjà vu.
Voilà comment on se retrouve,
dit le petit bonhomme.
C'est moi, Tonshin, celui qui vous a ramené là-bas, Schöngraben. Et vous voyez,
ajouta-t-il en montrant sa manche flottante,
on m'a enlevé un petit morceau. Vous cherchez Denisov, c'est mon compagnon. Venez par ici.
Et il l'emmena dans la chambre voisine, où l'on entendait rire aux éclats.
Comment ont-ils envie de rire ici ?
Se demanda Rostov, qui ne pouvait ni se débarrasser de l'odeur du mort, ni oublier les regards qu'il avait suivis à sa sortie. Denisov, la tête enfouie sous sa couverture, dormait encore, quoiqu'il fût déjà midi.
Ah, Rostov, bonjour, bonjour,
s'écria-t-il de sa voix habituelle. Mais Rostov remarqua avec peine qu'à travers sa vivacité et son insouciance ordinaire, un sentiment étrange d'aigreur perçait sur sa figure et dans ses paroles. Sa blessure, malgré son peu d'importance, n'était pas encore guérie après un séjour de 6 semaines à l'hôpital. Son visage était bouffi et pâle, comme ceux de ses camarades. Mais ce n'était pas là ce qui avait frappé Rostov. C'était le sourire forcé de son ami, qui semblait ne pas se réjouir de sa visite, et qui ne le questionnait ni sur le régiment, ni sur ce qui s'y passait. Il se bornait à l'écouter lorsque Nicolas en parlait. Il ne témoignait aucun intérêt à rien. On aurait dit qu'il s'efforçait d'oublier le passé et qu'il n'avait qu'une seule et constante préoccupation, son affaire avec l'intendance. Quand Rostov lui demanda où elle en était, il tira de dessous son oreiller plusieurs papiers, entre autres celui qu'il avait reçu en dernier lieu de la commission, et le brouillon de sa réponse, qui, évidemment, lui plaisait, car il faisait remarquer à Rostov les réflexions piquantes dont il l'avait émaillé. Ses camarades, qui avaient entouré avec empressement le nouveau venu, porteur de nouvelles du monde extérieur, s'éloignèrent peu à peu, aussitôt que Denisov commença à lire. Leurs figures disaient assez qu'ils avaient par-dessus la tête de toute cette histoire. Seul son voisin de lit, un gros hulan qui fumait sa pipe d'un air sombre, et le petit Ouchine, branlant la tête d'un air désapprobateur, continuèrent à l'écouter.
« À mon avis, »
dit le hulan en l'interrompant au milieu de sa lecture,
« il n'y a qu'une chose à faire, s'adresser à la clémence de l'empereur. Il y aura, dit-on, une pluie de récompenses, et il graciera, c'est sûr. Moi, demander une grâce à l'empereur !»
s'écria Denisov d'une voix irritée, bien qu'il tâchât seulement de lui rendre son énergie d'autrefois.
« Pourquoi ? Si j'avais été un brigand, j'aurais pu demander ma grâce, et c'est parce que j'attaque des misérables. Qu'on me juge, je n'ai pas peur, j'ai servi honorablement l'empereur, la patrie, je n'ai pas volé, et l'on me dégraderait pour... Allons donc, écoute ce que je leur dis plus loin. Si j'avais volé le gouvernement... C'est bien écrit, assurément, cela saute aux yeux,
dit Ouchine.
Mais là n'est pas la question, Vassili Dmitritch. Il faut se soumettre. et il ne le veut pas. »
ajouta-t-il, s'adressant à Rostov.
L'auditeur lui a bien dit que son affaire était mauvaise. « Eh bien, tant pis !»
repartit Denisov.
« L'auditeur vous a pourtant préparé une supplique, »
dit Touchine.
« Vous devriez la signer et la remettre à Rostov. Il a sûrement des accointances avec l'état-major, et vous ne trouverez pas de meilleure occasion. J'ai déclaré que je ne ferai point de bassesse. »
répondit Denisov, et il reprit sa lecture. Rostov partageait l'opinion de Touchine et des autres officiers. C'était, il le savait d'instinct, la seule et véritable voie à suivre. Il aurait été heureux de rendre ce service à son camarade, mais, connaissant sa volonté inébranlable et le juste motif de son emportement, il n'osait l'y engager. Lorsque cette lecture irritante, qui avait duré plus d'une heure, fut terminée, les groupes se reformèrent autour d'eux, et Rostov, profondément attristé, passa le reste de la journée à causer de choses et d'autres et à écouter les récits de ses pauvres blessés, tandis que Denisov, sombre et morne, gardait constamment le silence. S'étant enfin décidé à partir, fort avant dans la soirée, Rostov lui demanda s'il n'avait pas de commission.
« Si, un moment, »
répondit-il, et, tirant de dessous son oreiller les mêmes papiers, il s'approcha de la fenêtre, sur l'appui de laquelle il y avait un encrier, et il y trempa une plume.
« Il n'y a pas à dire, un fouet ne peut briser une hache, »
dit-il en remettant à Rostov une grande enveloppe. C'était sa supplique à l'empereur, dans laquelle, sans parler de ses griefs contre l'intendance, il demandait sa grâce pure et simple.
« Tu la remettras à qui de droit ? On voit bien... »
Il n'acheva pas. Un sourire douloureux et forcé contracta ses lèvres.